Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, l'invité d'Escale est Adama Dieng, le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide. Le juriste sénégalais revient sur l'examen par l'Assemblée générale de l'ONU de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger et les défis restants pour parvenir à une ratification de la Convention sur la prévention et la répression du génocide d'ici son 70e anniversaire l'an prochain.
Adama Dieng, bonjour.
Bonjour.
Adama Dieng, vous êtes donc le conseiller spécial du secrétaire général sur les questions notamment donc de génocide. Aujourd'hui, l'Assemblée générale s'est réunie, une première depuis 2009, pour examiner et débattre de cette fameuse question de la responsabilité de protéger. C'est une question qui n'est pas très connue du grand public. Alors, en deux mots, comment peut-on résumer la responsabilité de protéger ?
Très simplement, il s'agit de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des populations soient sujettes à des crimes tels que le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, les nettoyages ethniques. C'est évidemment au lendemain des horreurs qui ont été commises au Rwanda et à Srebrenica que les États membres ont pris la résolution en 2005 de ne plus jamais rester les bras croisés, de ne plus jamais permettre que des populations soient victimes de ce type d'atrocité que nous dénommons tout simplement atrocité criminelle pour les besoins de la cause. Mais cela est une chose, les mots, la théorie, mais dans la pratique, il va falloir faire beaucoup plus pour traduire la responsabilité de protéger dans les faits.
Alors, l'ONU a été créée en 1945, déjà basée notamment dans la charte sur le passé douloureux, les erreurs à ne pas commettre, les leçons de l'histoire. Quelques années plus tard, il y a cette fameuse convention sur le génocide qui a été adoptée. Pourquoi avoir eu besoin, durant toutes ces années, d'un nouvel instrument alors qu'il y avait déjà des choses qui existaient ?
Écoutez, en 1948, le 9 décembre précisément, l'Assemblée générale a adopté la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide. Un jour avant l'adoption même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela a revêté tout un symbole, parce que tout simplement, les horreurs qui ont été commises, l'Holocauste des Juifs, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, cela n'était pas acceptable et l'humanité s'est écriée « plus jamais ça ». Malheureusement, depuis, nous avons été les témoins impuissants de ce qui s'est passé au Rwanda, les témoins impuissants de ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, 10 ans plus tard, après ces douloureuses tragédies, l'Assemblée générale, à travers ses leaders, unanimement, ont pris l'engagement de ne plus jamais rester les bras croisés et de permettre que de tels crimes puissent se commettre. Et cela a été traduit sous la dénomination « responsabilité de protéger », qui en fait n'est qu'un habillage politique des obligations juridiques qui ont été déjà acceptées par la plupart de ces États. Obligations juridiques, vous avez mentionné la Convention contre le génocide, mais il y a eu aussi les conventions de Genève, donc tout le droit international humanitaire et tant d'autres instruments. Et si ces obligations juridiques avaient été respectées par les États, nous n'aurions pas eu besoin de la responsabilité de protéger. Mais c'est parce qu'il y a eu une défaillance de ces États, un manque de respect par ces États de ces obligations juridiques que les leaders ont décidé d'avoir maintenant un instrument qui serait quand même un instrument, disons, entre guillemets, politique, pour amener la communauté internationale à prendre les mesures qui s'imposent lorsque un État se trouve dans l'incapacité de protéger ses populations. Dans ce cas-là, la communauté internationale peut aider cet État à assumer sa responsabilité, mais il y a des situations où c'est l'État lui-même qui refuse de protéger sa population. Et c'est dans un tel contexte que la responsabilité collective peut être invoquée, et à travers cette responsabilité collective, et cela c'était la décision même des leaders de ce monde, le Conseil de sécurité peut, au cas par cas, examiner une situation et décider du recours à la force. Donc le recours à la force, c'est l'ultime recours lorsqu'il n'y a plus aucune autre possibilité. Malheureusement, il y a tellement d'outils qui existent. Prenons le chapitre 6 de la charte de San Francisco, donc la charte qui a créé les Nations Unies. Ce sont des instruments, des outils qui peuvent être utilisés, les bons offices, la diplomatie, etc. Mais lorsque, malgré le recours à ces outils, on n'arrive pas à gérer une situation, alors on passe au recours à la force. Hélas, nous avons été les témoins depuis 2005, date de l'adoption du principe de Hartoupi, les témoins des horreurs indescriptibles commises en Syrie et dans d'autres régions du monde.
Alors, le secrétaire général, ce matin, en s'adressant à l'Assemblée générale, a justement mentionné dans la convention de 1948 que vous citiez. C'est une convention qui, aujourd'hui, ne connaît pas une ratification universelle. Il y a à peu près une quarantaine d'États qui ne l'ont pas ratifiée. Est-ce qu'il faut d'abord aller vers une ratification universelle ou est-ce que c'est un objectif qui, aujourd'hui, est un peu abandonné? Et est-ce qu'on privilégie, par exemple, la responsabilité de protéger?
Absolument pas. Je crois que sur les 45 États qui n'ont pas encore ratifié la convention contre le génocide, je dois préciser que certainement, certains de ces États, c'est tout simplement parce qu'ils sont devenus indépendants au début des années 60, parce que vous avez au moins une vingtaine qui sont d'anciennes colonies d'Afrique. Et vous avez quelques États qui sont dans les îles du Pacifique. Mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, c'est tout simplement rappeler à ces États l'existence de cette convention. Rappeler à ces États que c'est une obligation, je dirais, aujourd'hui même morale. Il est tout simplement inacceptable qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore des États qui n'ont pas ratifié cette convention et qui pourtant ont accepté le principe de la responsabilité de protéger.
Sur la responsabilité de protéger, il y a également, donc vous en parliez, des méfiances, il y a des défaillances. On a quand même connu des succès. Le rapport du secrétaire général parle de, en gros, un peu comme une mention de professeur, bien mais peut mieux faire. Il y a eu des succès, on pense notamment à la RCA. Donc est-ce que ce genre de succès est à même de convaincre les États dits fragiles ou les États qui, par leur faiblesse structurelle, n'ont pas encore ratifié, complété tous les instruments juridiques?
Mais écoutez, moi j'ajouterais à l'exemple cité par le secrétaire général, deux autres exemples. L'un, c'est la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a demandé à ce que justement la communauté internationale apporte son appui pour protéger sa population. C'était vraiment là la responsabilité de protéger en action. Nous avons eu aussi le Kenya. Le Kenya où après les horreurs commises lors des élections de 2007-2008, en 2013, nous avons vu la responsabilité de protéger en action. En action grâce à l'intervention d'abord et avant tout des autorités kényanes, y compris la société civile. N'oublions pas le rôle important de la société civile, des organisations non gouvernementales. Parce que quand on parle de Hartoupi, responsabilité de protéger, il est vrai que c'est la responsabilité première de l'État. Mais c'est avant tout la responsabilité de tout un chacun. Et là où il y a maintenant, bien entendu, défaillance, on peut faire recours à la responsabilité collective. Et là, c'est le Conseil de sécurité qui en assume la première responsabilité.
Pour illustrer et éclairer le débat, il y avait donc ce fameux rapport du secrétaire général intitulé « Responsabilité de protéger de l'alerte rapide à l'intervention rapide ». Il y a justement des recommandations sur l'implication de la société civile et surtout sur la prévention qui a un coût bien moindre bien sûr que l'intervention après coup. Est-ce que là il y a des pistes qui peuvent être dégagées et est-ce que ça peut sensibiliser en termes économiques notamment, en termes humains, les pays qui sont encore réticents, les pays qui sont fragiles, les pays qui sont méfiants?
Écoutez, si vous prenez en compte le fait qu'au cours des 10 dernières années, la communauté internationale a dépensé pas moins de 233 milliards de dollars en termes d'assistance humanitaire, en termes d'opérations de maintien de la paix et en termes d'appui aux réfugiés. Imaginez ce montant énorme. Si on avait investi une petite portion dans la prévention, eh bien, que de milliards nous aurions fait l'économie qui aurait pu servir à certainement éradiquer la faim dans certaines parties du monde. Donc, et c'est pourquoi, là aussi, il nous faut garder en vue qu'il y a un lien entre la responsabilité de protéger et l'assistance au développement. Et c'est pourquoi je dis souvent que, parlant du Sud-Soudan, que la communauté internationale n'a pas eu le flair qu'il fallait. Parce qu'au lendemain de l'indépendance acquise par le Sud-Soudan, au lieu que de mettre l'accent sur la réconciliation des groupes ethniques sud-soudanais, tout un chacun s'est empressé pour investir soi-disant dans le développement, et on a vu 2 années plus tard la crise qui aujourd'hui hélas continue à perdurer avec des milliers de victimes.
Alors, on parle beaucoup de l'Afrique, vous parlez du Kenya, de la Côte d'Ivoire, du Soudan du Sud, juste maintenant, de la RCA, mais la responsabilité de protéger s'applique à l'ensemble des États membres de l'ONU. Il y a d'autres régions qui sont concernées. Sur ces régions, je pense à la Syrie, je pense aussi plus récemment au Myanmar, et donc la crise qui se traduit au Bangladesh aujourd'hui. Est-ce que là également, il y a un message à faire passer, notamment pour les Africains, de dire, mais non, attendez, vous n'êtes pas les seuls visés. Les États africains avaient quand même critiqué la justice pénale internationale qui, trop souvent, à leur goût, visait des pays africains. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette responsabilité de protéger, elle vise l'universel, et est-ce qu'elle peut s'appliquer donc de la même manière pour tous les États?
Elle s'applique à tous les États, cette responsabilité de protéger. Et je dois préciser au passage que s'il y a une région qui peut s'enorgueillir d'avoir adopté un principe qui est beaucoup plus d'ailleurs avancé que le principe de la responsabilité de protéger, il s'agit de l'Afrique. Parce que l'Afrique, en 2001, a adopté une constitution qui est donc l'acte constitutif mettant en place l'Union africaine, donc qui a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine. Et dans cet acte constitutif, il figure un article extrêmement important, c'est l'article 4H, par lequel l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'engage à intervenir à chaque fois que des populations feront face à un risque de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre. Donc c'est ainsi que les Africains sont passés du principe de non-ingérence au principe de non-indifférence. Et cela, c'était une traduction de leur échec au Rwanda. Ils ont dit plus jamais cela. Et je dois dire qu'aujourd'hui, l'Union africaine est en train de développer un mécanisme d'alerte précoce qui, je l'espère, renforcera évidemment la prévention des atrocités criminelles.
Alors vous parlez justement du droit donc des États à disposer d'eux-mêmes, de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Pour autant, le secrétaire général ce matin a quand même pris le soin de préciser que cette responsabilité de protéger n'est pas un nouveau mécanisme de coercition. Donc s'il fait ça, c'est dans quel but?
Mais écoutez, c'est tout simplement pour rappeler à certains États qui sont encore un peu frileux, entre guillemets, qui perçoivent la responsabilité de protéger comme étant un instrument entre des États puissants qui vont tout simplement intervenir pour changer des régimes. Et cela, je dois dire, relève malheureusement de la lecture qui a été faite de l'intervention en Libye. Parce qu'en Libye, le Conseil de sécurité a autorisé les forces de l'OTAN à intervenir pour protéger les populations libyennes. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est qu'après cette intervention, ça a été le chaos. Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il ne fallait pas le faire? Personnellement, j'estime que ce qu'il faut retenir comme leçon de l'intervention en Libye, c'est que lorsqu'on recourt à la force dans le cadre de la responsabilité collective, il faut, avant de passer à l'action, dessiner également l'après-intervention. Parce que si le Conseil de sécurité avait pris soin de prévoir une action décisive après l'intervention pour contenir la situation, nous n'aurions pas été les témoins de cette vague de criminalité qui prospère, hélas, dans la région du Sahel.
Adam Adiang, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, fin de ce magazine Escale, préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet, avec la complicité de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur Internet et sur les médias sociaux le magazine hebdomadaire, mais aussi les journaux quotidiens d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.